4 octobre 2011, bienvenue à l'aérospatial en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, une heure, ma foi, fort remplie. On rencontre Gabriel Gendron pour discuter de l'exposition « Reconditionner le rêve » qui est présentée à la Galerie Tzara. Également, une nouvelle chroniqueuse cette semaine. On a eu l'occasion de discuter avec elle la semaine dernière en entrevue, Fanny Hénon-Lévy, qui cette semaine nous parlera de l'exposition « Calibrage sous déviance » qui est présentée à Regards. Également, on rencontre Yana Wallet pour discuter de l'exposition « Gaspésie Humanless partie 1 » qui est présentée à l'établi. On discute, comme à l'habitude, avec Raymond Poirier qui nous fera sa revue de presse et aussi Simon Roy qui nous fera la sélection musicale aujourd'hui. Mais peut-être juste avant, Raymond, un petit aperçu de ta revue de presse.
Ben notamment, il y a toujours des controverses autour de Léonard da Vinci. On va en parler un peu et quelques éléments aussi au niveau de la prise de photos d'installation en art visuel. J'en dis pas plus.
On n'en dit pas plus et tout de suite, on s'en va dans l'univers de l'art audio avec Simon Roy. Bonjour.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Ça va très bien malgré la journée grise, froide et morne.
Ouais, ben c'est pas grave. J'ai trouvé un petit peu de musique pour nous pour changer ça, un petit peu de soleil aujourd'hui.
Oh, tu vas nous requinquer avec?
Je vais te parler de People Icos. C'est une Anglaise, c'est Vicky Bennett. Elle fait des trucs vraiment intéressants, c'est du collage sonore, donc c'est pas du sampling, on appelle ça plus fréquemment du plunderphonics, donc elle prend des pièces qui ont, enfin, on dirait qu'ils ont aucun lien ensemble, puis elle a réussi à nous coller ça ensemble, donc je vais vous parler de l'album Bridge Too Far, c'est un album qui a été publié en 2004, donc elle a pris des enregistrements, c'est la musique pop à partir des années 30 jusqu'aux années 90. Puis elle nous blende tout ça ensemble. C'est des pièces qu'on dirait qui peuvent vraiment pas aller ensemble, mais elle réussit à faire de quoi de vraiment intéressant. C'est une femme vraiment exceptionnelle qui s'est promenée un petit peu partout sur la planète avec ses trucs. Puis, chose intéressante, ben, tous ces albums sont disponibles gratuitement sur le site Ubu Web. Donc, on peut en écouter comme on veut. Donc, on va débuter avec la première pièce qui s'appelle I've Got You. Puis, je vous en ai choisi trois autres. Ça va être suivi par la pièce, excuse-moi, A Ridge Too Far. Puis ensuite de ça, Retreat to Fade. Puis ensuite, on va terminer la dernière un peu plus tard en émission avec Happy Wanderer. Vous allez voir, c'est assez spécial.
Simon Roy, on a l'occasion de t'écouter aussi le dimanche soir sur les ondes de CKRL avec Web Musique.
Oui, toujours fidèle au poste depuis 2007, plein de musique gratuite en tout genre.
Ben merci beaucoup.
Ben merci à vous autres, puis bonne émission.
Ben passez une belle soirée à toi. On s'en va en pause audio tout de suite. On écoute I've Got You sur les ondes de CKRL. Alors, on vient d'entendre, c'est rare, hein? Habituellement, à l'aérospatial, on entend des extraits musicaux. On a entendu la pièce au complet, c'était « I've Got You » de l'album « A Bridge Too Far », une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les titres qui sont présentés à l'émission, si vous voulez avoir les liens pour télécharger la musique, vous pouvez aller sur le site Internet de l'aérospatial, l'aérospatial.wordpress.com également. Vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion. C'est toujours pratique si vous le ratez. Quoique là, je suis en train de vous parler, donc j'imagine que vous êtes en train de l'écouter. Bref, peu importe les raisons, allez sur le site, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous laisser des commentaires aussi. On aime beaucoup vous lire. Et parlant de lire, Raymond Poirier, tu as lu pour ta revue de presse et c'est un lien très, très boiteux.
Oui, en fait, plusieurs sujets bien intéressants cette semaine. On commence avec une petite controverse qui nous vient d'Allemagne, en fait. C'est un artiste américain qui s'appelle Christo, en fait, qui allait en cours contre une agence photographique allemande, demandant à celle-ci d'arrêter de diffuser gratuitement des photos d'une de ses installations qu'il avait réalisées en 1995. Alors, le tribunal de Berlin a donné finalement raison après 3 semaines de procès à Christo dans sa querelle contre cette agence-là. Donc, officiellement, il est interdit de commercialiser sans autorisation des photographies de cette installation qui est en fait le Reichstag emballé. Donc, c'est intéressant, en fait, c'est qu'au départ, Christo n'a jamais donné son accord à l'agence photographique pour diffuser ces clichés-là qu'il lui considérait comme représentant son œuvre et non un monument public. Parce qu'il faut dire, on est ici dans une installation, mais ce n'est pas une installation en galerie, c'est une installation à l'extérieur. Et donc, bien entendu, l'agence de photos, eux, disaient, ben, regardez, c'est public, c'est à l'extérieur, on a pris une photo d'un événement, dans le fond, et on a le droit, normalement, de la diffuser. Et donc, Christo qui disait, ben non, ce que vous diffusez, c'est pas un événement, c'est mon œuvre, et qui vit, finalement, seulement à travers les images, à travers les photos, puisqu'elle était cerclée dans une période temporelle. Alors ben voilà, donc un différend qui remonte à cet été, et donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est un précédent, bien entendu, mais ça met un peu les cartes sur table aussi au niveau de représentation artistique à l'extérieur. Ouais. On peut prendre des photos pour notre usage personnel, pour un usage journalistique également, mais on ne peut pas commercialiser ces images-là puisqu'elles représentent l'œuvre d'un artiste et donc que les profits reviennent à cet artiste-là.
C'est intéressant, hein, parce que effectivement, c'est j'imagine qu'il y avait des affiches qui étaient faites avec ça, des cartes postales. Donc, l'agence faisait de l'argent. Alors, ah oui, c'est...
Donc, c'est une question de droit d'auteur,
ouais,
en fait.
Effectivement. On passe toujours au crédit photo, mais l'œuvre qui est représentée, qu'est-ce qu'il y en est?
Alors, on revient au Québec maintenant, Julie, avec l'achat d'œuvres. En fait, c'est une compilation qui a été réalisée par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, une enquête statistique sur les acquisitions d'œuvres d'art et qui montre qu'en 2009-2010, le montant a été un peu moindre en ce qui concerne les acquisitions par les institutions muséales, par les entreprises, par toute autre institution collectionneuse. On parle de 10,5 millions de dollars d'œuvres d'art qui ont été acquises. La moyenne des 5 dernières années, c'est 11,7 millions, alors nécessairement une baisse, une légère baisse, mais une baisse quand même. On parle globalement là, d'à peu près 1445 œuvres qui ont été vendues cette année, et donc une production d'œuvres d'art qui est quand même pas inintéressante, mais si on y va même par institution, par exemple, en parlant des musées, on se rend compte que les œuvres qui ont été achetées valent moins cher aussi que les autres années. Donc, on a fait des achats peut-être d'artistes plus récents, peut-être des œuvres moins importantes. Donc, ça reste à voir. L'enquête ne le précise pas. Mais donc, par exemple, pour les musées, on parle d'une moyenne de 16,3 millions de dollars pour 2009-2010, comparativement aux 5 dernières années où c'était 27,5 millions de dollars. Dans un contexte où on en parlait la semaine dernière, il y a eu des difficultés budgétaires du côté de certains musées, dans un contexte où il y a eu des coupures également à certains programmes de financement, donc peut-être que ça viendrait expliquer là, pourquoi aussi dans les dernières années on a réduit le taux d'acquisition d'œuvres d'art.
C'est une triste nouvelle.
Effectivement, on fait moins de collections.
Journée grise et morne.
Petite bonne nouvelle, tiens, pour changer. Il y a un nouveau gala qui devrait avoir le jour à la fin de l'année. Il devrait récompensera l'excellence des arts visuels québécois dans leur ensemble. Oh. Donc, autant récompenser les artistes, les galeries, les musées, les commissaires d'exposition également. On parle d'une 15aine de prix qui vont être attribués lors d'une soirée qui va avoir lieu à Montréal. Ça va s'appeler le Gala des arts visuels, un événement qui ne sera pas télédiffusé, mais qui aurait ses capsules. Qui aurait ses capsules sur une chaîne spécialisée, cela dit, et j'imagine également sur le web. Mais donc, c'est une belle nouvelle, en fait. Je pense que des événements comme ça, ça peut aider un petit peu à la diffusion ou à donner une récompense. Il y a tellement de beau travail qui est fait à l'année longue. Donc, ça peut être intéressant pour le milieu, justement, de se donner l'opportunité de se récompenser, de se taper un peu dans le dos.
Ben oui, puis aussi de favoriser les contacts, là, je veux dire, des artistes qui n'en connaissent pas d'autres, qui peuvent échanger aussi autour de ça, c'est bien.
Les Journées de la culture, c'était la semaine dernière. Je le mentionne au passage parce qu'il y avait plusieurs musées qui participaient, plusieurs galeries. On pense à Dzara, au Musée national des beaux-arts, plusieurs galeries également de Méduse. Eh bien, il y a eu à peu près, enfin, on s'attend à ce qu'il y ait plus de visiteurs, voilà, que l'année dernière. L'année dernière, on avait eu 210 000 pour la province globalement. Et toutes les analyses suite aux 15e journées nous disent, regardez, il y en a eu plus que l'année dernière. Alors, c'est une belle nouvelle. Ben les gens s'intéressent à ces activités-là. On devra avoir les chiffres finaux dans quelques semaines.
On les attend avec impatience.
Et en terminant, Julie, je mentionnais dans l'ouverture une petite controverse concernant Léonard de Vinci.
Dis-moi pas que c'est encore la Joconde.
Non, ça fait changement. En fait, là, cette fois-ci, c'est un tableau d'une jeune fille qu'il avait peint peut-être. Et là, peut-être être important, en fait, c'est un collectionneur, Peter Silverman, qui a acheté une œuvre pour pas trop cher, et il s'est rendu compte, en fait, que l'œuvre qui était donnée pour avoir 100 ans, mais selon d'autres analyses, pouvait lui donner un âge un peu plus avancé, voire jusqu'à beaucoup plus avancé, là, peut-être 400 ans. Donc, ça serait un parallèle, en fait, une œuvre qui a coûté peut-être 50, 100 000, 150 000, qui vaudrait finalement plusieurs millions de dollars. Donc, il y a quand même un profit à faire. Et donc, l'artiste, ben, le collectionneur en fait partie en croisade, entre guillemets, pour essayer de faire reconnaître une paternité de cette œuvre-là à Léonard de Vinci. Okay. Et donc là, ce qui fait qu'autour de ça, il y a un gros débat dans le milieu des analystes d'histoire de l'art. Plusieurs qui disent, regardez, ça n'a aucun sens que Léonard de Vinci ait utilisé ça quand on regarde le type de matériel qui est utilisé, quand on essaie de dater un peu l'œuvre, ça nous donne 100 ans, c'est avec du matériel qui est généralement utilisé par des faussaires. Et ben, parallèlement, il y en a d'autres qui disent, ben non, pas du tout, cette pièce-là n'est jamais apparue dans aucun corpus, donc elle pourrait pas être un faux parce qu'on ne savait pas que Léonard l'avait fait. Et si on fait tel processus de datation, ben là, ça nous donne un âge un peu plus avancé, donc on pourrait réussir à la retracer à M. de Vinci. Je résume les grandes lignes du débat. En fait, on mettra l'article sur le blog que tu mentionnais, l'aérospatiale.wordpress.com. C'est un bel article du Monde, en fait, qui détaille un peu tout ce débat-là et qui réussit justement à bien cerner, parce que j'imagine que c'est le genre de questionnement qui arrive dans d'autres circonstances, autour d'autres œuvres, et ça nous donne un bel exemple justement du type de débat et du type d'enjeux aussi qui sont liés à la datation des œuvres et à la bonification aussi du cursus de certains artistes, à savoir est-ce que c'est un maître inconnu du 17e siècle ou du 16e siècle, ou est-ce que c'est Léonard de Vinci. On s'entend qu'il y a une grosse différence là, côté prix.
Bien, ça change d'autant plus la donne qu'il y a très, très peu de tableaux dont on est certain de la à Léonard de Vinci. Je pense qu'il n'y en a pas plus que 10. Je pense qu'au total, il y en a 8. Donc, en ajouter un à ça, ça pourrait changer la donne considérablement.
Et pour le propriétaire, en fait, je le mentionne, on parle d'une donne de 150 millions de dollars.
Oh ben, OK, fait que c'est environ 100 fois la valeur initiale. Puis après ça, il y en a qui viennent dire que l'art, ça ne rapporte pas. Hein. C'est pas un investissement. En tous les cas, on vous souhaite de trouver un tableau de Léonard de Vinci comme ça au hasard dans votre collection. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On se revoit la semaine prochaine. Et nous, on s'en va pas aujourd'hui. On écoute A Bridge Too Far, tiré de l'album du même nom.
Say that's a nasty one. Chicken leg,
1.49 pence per barrel. On vient d'entendre une pièce de People Like Us sur les ondes de CKRL. On se dirige vers l'établi en compagnie de Yana Ouellette. Bonjour. Yana Ouellette, avec Guillaume Dessir, tu as réalisé l'exposition Gaspésie Humanless, dont on voit la partie 1 en ce moment à l'établi. Vous vous intéressez aux maisons abandonnées de la Gaspésie. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet-là? OK.
J'ai vu passer quand même à plusieurs reprises, puis c'est quelque chose qui l'avait quand même touché, puis c'est toujours intéressé à, disons, à ce que l'humain laisse dans le paysage, puis à ce que ça devient, comment ça vieillit et tout et tout. Fait que il cherchait comme un moyen finalement de ramener ça à lui. Puis ça a été vers la Gaspésie, parce qu'il vient là.
OK.
On a fait le tour plusieurs fois. On avait de quand même déjà repéré plusieurs dans les tours qu'on a fait.
Vous avez fait ça d'ailleurs sur 2 semaines, hein? Je pense une semaine de repérage, puis une semaine de prise de vue.
Une semaine au complet, on a fait et repérage et prise de vue en même temps. Fait que c'était, fallait rester alerte. C'est pour ça qu'on a choisi l'automne.
Ben oui, si vous avez pris ça en novembre.
Pour pas qu'il y ait de feuilles dans les arbres, surtout pour qu'on puisse repérer les maisons et qu'on les voit bien sur les photos.
En même temps, ça ajoute un peu à cette espèce de sentiment de désolation qu'on a, là. Parce que moi, je me rappelle, j'ai fait le tour de la Gaspésie, un peu comme tout le monde. Hein. On fait le tour, on fait le long de la 132. Ah non, en une semaine quand même, c'est pas pire. Puis, je regardais ces endroits-là, ces villages-là qui semblaient se vider lentement. Il n'y a même pas de dépanneur, les maisons. Tu sais, j'imagine que de pouvoir les croquer finalement de près, ça doit être intense.
Esthétique à la base. Il n'y avait pas de prise de position. On n'avait pas un message à transmettre avec ça. On se rend bien compte au fil des entrevues et comment les gens reçoivent l'expo aussi, que ça, évidemment, ça parle de l'exode, ça parle des régions qui se vident, mais en même temps, c'était pas notre sujet principal, finalement. Nous, c'était l'esthétique de la maison abandonnée.
D'ailleurs, Guillaume et toi, vous avez des approches différentes, mais assez complémentaires. Guillaume prend les maisons dans l'ensemble. Toi, tu t'es intéressé aux détails.
Et moi, je me suis toujours intéressée à la photo. Je travaille aussi comme maquilleuse coiffeuse sur des séances photo depuis maintenant, ça va faire plus de 7 ans. Puis, j'ai toujours aimé la photographie, j'en ai toujours fait, mais depuis les dernières années, disons, je me suis plus intéressée
à une pratique en photo.
Naturellement, on regardait les sujets très différemment. Évidemment, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas la même façon de voir. Puis lui, d'emblée, c'est toujours le paysage. Puis moi, c'était comme un réflexe d'aller vers le sujet, puis d'essayer de prendre les détails, chercher quelque chose de graphique, mais dans ce qui perd un peu de sens, finalement.
Puis c'est vraiment, je regardais bon les photos, vous avez produit un livre aussi d'ailleurs. C'est particulier quand on regarde parce que on voit que ces maisons-là, des fois, elles ont été abandonnées pleines, mais pleines, meublées, là, avec la vaisselle sur la table. C'est ça, hein?
On n'a pas de réelle réponse. On n'a pas eu d'histoire. On n'a pas eu de compte rendu de réelle histoire. Là,
puis, dans vos photos, en fait, bon, c'est 50 maisons, c'est ça, le long de la 132. Pourquoi être resté le long de la 132?
En fait, déjà, ben, en fait, on on a défini notre territoire. C'était ça au départ. On fait le tour de la 132. Puis, sinon, en une semaine de là, on n'en aurait pas eu assez. On avait décidé de rentrer dans les visages, dans les villages,
ouais.
Bien sûr qu'on aurait trouvé davantage, mais on n'aurait pas eu vraiment le temps. En 7 jours, on était quand même limité. C'était de se déterminer un territoire, puis à partir de là, faire notre position.
Dans l'exposition, je l'ai mentionné tout à l'heure, même à la limite, j'imagine, c'est un peu le point de départ. Vous avez réalisé un livre d'artiste, toi et Guillaume. Ça a dû être une aventure quand même assez grande.
Oui, mais c'est, Guillaume avait déjà auto-édité son livre sur le Japon. Puis, il s'est familiarisé avec un logiciel Internet avec lequel il y a eu des très bons résultats professionnels aussi. Puis nous, on est parti de 3000 images quand même de notre
ben ouais.
Fait que, à force de élaguer, à force de couper, de choisir, on est arrivé à 142 images. 142 images à lesquelles on tenait.
Mais ben ouais.
C'est comme un peu impossible d'exposer ça parce que de un, on n'a pas les moyens de les faire finir et de deux, on n'a pas l'espace de.
C'est gros, là.
Avec un livre, l'entièreté de la partie 1 va être possible de voir. Puis c'est ça, étant donné qu'il y a quand même deux autres parties au projet, on s'est dit que c'est une bonne idée d'avoir réuni dans trois livres éventuellement.
Mais oui.
La totalité de ce qu'est le projet. Finalement.
Puis on peut le consulter sur place. Là. Il y a une belle table avec le livre, avec une composition aussi que tu as faite pour regarder le livre. Mais ouais.
Qu'il y a une continuité et tout ça, puis c'est lui qui a l'expertise de la retouche et tout et tout. Puis étant donné que je me retrouvais finalement à avoir rien à faire pendant cette période-là, puis je me disais, pourquoi pas se donner un peu de travail supplémentaire.
Mais ouais.
Une trame sonore, c'est surtout aussi pour amener quelque chose, un plus finalement de ce que moi je fais dans la vie aussi, amener une autre facette finalement. De ce qu'on a vécu là, puis de ce qu'on a perçu là.
Ça permet vraiment de créer l'ambiance, parce que quand on écoute la pièce au début, on feuillette, j'ai de la misère avec ce mot-là, je veux dire, on feuillette le livre, on voit ces images-là, je trouve ça un peu des images de l'absence, puis ta musique vient rappeler un peu cette présence-là au début avec les voix qu'on entend un peu.
Il y a des chuchotements, j'ai chuchoté une anecdote qu'on a eue sur place à un moment donné, comme si je racontais ça un peu. Avec la peur et tout, fait que ça rajoute une espèce de dimension fantomatique. Je sais pas trop,
hein. C'est immersif aussi, pas mal, là, parce que là, on n'a pas le choix de plonger carrément, puis j'imagine que tu diriges un peu aussi l'émotion qu'on ressent.
Oui, en même temps, c'est ça. Là,
c'était très contemplatif aussi comme expérience. C'est pas de temps. Mais c'est sûr que. Il y a toutes sortes de sentiments qui peuvent être vécus quand tu es à l'intérieur d'une maison avec ses souvenirs, avec un paquet de trucs, mais c'était quand même assez zen comme expérience. On était. Fait que j'ai essayé quand même de recréer ça, mais aussi dans l'espèce de mélancolie qu'il y a beaucoup dans l'expo finalement.
On en parle un peu depuis tout à l'heure, partie 1, hein, on parle partie 2, partie 3. Dans la partie 2, je crois que vous allez dans les terres.
Oui, en la partie 2, encore là, on a déterminé notre territoire de travail. Cette fois-là, c'était la baie des Chaleurs, d'où plus précisément Guillaume vient. En fait, lui, il vient de New Richmond. Fait qu'il disait, bon, OK, on va aller chercher des lieux, plutôt des lieux abandonnés, pas seulement des maisons. En fait, on s'est rendu compte, à la prise de vue, que les maisons, on avait un peu fait le tour.
Ben ouais.
Puis on se voyait pas repartir là, sur ça là, encore. Fait qu'heureusement, on a eu toutes sortes de belles surprises aussi pour notre prise de vue de la partie 2.
Qui est déjà réalisé.
Qui est déjà réalisé, mais la sélection et rien de tout ça est faite. Là, fait que...
Bon, faut savourer dans la durée aussi.
En même temps, je pense que de finaliser, de vraiment finaliser la partie 1, de l'exposer, d'en parler, ça nous a fait aussi énormément réfléchir sur qu'est-ce qu'on voulait faire avec la partie 2. Et surtout, à la prise de vue aussi de la partie 2, on s'est rendu compte que ce qu'on avait déjà établi pour notre partie 3, ce serait pas possible de le faire tel quel. Fait qu'on a repensé aussi à ce que ça allait être.
Puis là, peut-être un petit clin d'œil à la partie 3.
En fait, Le gros travail s'appelle Gaspésie Humanless.
Ben ouais.
Puis en même temps, on a rencontré des gens aussi quand même. T'sais. Puis la Gaspésie n'est pas vidée de ses personnages.
Elle n'est pas exsanguée de sa population.
Non, absolument pas. Puis dans le fond, le but, c'est de revenir à l'humain. Fait qu'on a déjà un portrait de fait qu'on a rencontré dans les deux parties qu'on a prises en photo déjà. La partie 1 et 2. Un monsieur fort intéressant qui nous a raconté sa vie avec générosité. Fait que
On réintègre
l'humain, l'homme. En fait. Ouais, je pense. Puis pour Guillaume aussi, c'est un retour parce que dans son travail commercial, il fait des portraits régulièrement. Mais dans son travail artistique, il en a pas vraiment fait. Fait que aussi, c'est comme un défi supplémentaire aussi de revenir avec un sujet vivant.
À réconcilier les deux, finalement, réconcilier les pratiques.
Absolument.
Yana Ouellette, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
On lance l'invitation Gaspésie Humanless, partie 1, qui est présentée à l'établi jusqu'au 15 octobre 2011. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny Hénon-Lévy autour de l'exposition « Calibrage sous déviance ».
Mardi soir, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude.
La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue.
Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418 529 3829.
À 18h, mais on commence la deuxième demi-heure un peu allongée de l'aérospatiale, toujours avec Julie Gagné à l'animation, Jacques Gignac à la mise en onde. D'ailleurs, avant de faire la chronique avec Fanny Hénon-Lévy, je vous invite à nous écrire l'aérospatiale.wordpress.com pour nous écrire. Excusez, je me suis trompée. Nous écrire, c'est aérospatiale.ckrl@gmail.com. L'adresse précédente, c'est pour aller consulter les informations relatives à l'émission, nos suggestions, les communiqués de presse, etc. Mais là, je m'enfonce et tout de suite, je cède la parole à Fanny Hénon-Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, Julie, merci.
Ta première chronique à la radio?
Confiante.
Tu te sens bien? Ben oui. C'est pas la première fois qu'on discute ensemble. De toute façon, tu es allée faire un tour du côté de Regard, les nouveaux locaux de Regard.
Les nouveaux locaux, ils fêtent aussi leurs 25 ans. Donc, c'est un événement, là. On accueille, donc la galerie Regard accueille Calibrage sous déviance. C'est une expo. Moi, j'ai choisi cette expo-là parce que je l'ai trouvée vraiment intéressante. C'est une expo qui s'ouvrait le 23 septembre, qui est prévue jusqu'au 30 octobre. Et elle s'ouvre le 23 septembre par une performance qui a lieu sur le traversier Québec-Lévis. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on on se redonne l'adresse de Regard ou est-ce qu'on leur rappellera?
Simplement, juste à droite, en sortant du traversier. C'est assez difficile à manquer, à remonter la côte, l'ancien salon de quilles.
Exactement. Donc, le 23 septembre, on a rendez-vous sur la traverse Québec-Lévis. On a rendez-vous avec le duo d'Ardennes, qui se compose du duo Éric Dorion et François Martigues. Et là, donc, on a une foule éclectique de gens là, qui attendent avec impatience de savoir qu'est-ce que c'est que cette performance. Et le duo d'Ardennes donc arrive et proclame haut et fort la naissance d'une micronation éphémère, le Dardenland. Donc c'est un petit peu spectaculaire là. Il y a un pick-up. Désolée, là, je passe. On a un micro qui a envie de performer lui aussi. Donc, on a l'ouverture de cette performance qui s'appelle En eau trouble et qui est suivie donc d'une installation à la galerie. Je vais y revenir rapidement. En gros, donc, la proclamation de Dardenland qui est autour du statut des libertés individuelles, le régime particulier en Haute-Mer et les eaux internationales qui, on le sait, est considéré comme un bien public mondial. Donc, évidemment, c'est tourné avec dérision, avec absurdité, voilà. Donc, c'est vraiment amené, ça nous amène à réfléchir sur la notion de limite, de territoire, de la notion d'appartenance à un État. Il y a évidemment la création... Donc, ce qui est intéressant, c'est que Éric Dorion et François Martigues sont des artistes sonores. Donc, ils ont pour l'occasion créé une radio pirate qui était diffusée sur le 88.5 FM. Et bon, alors si vous l'allumez près de chez vous et que vous habitez le pas à Lévis, ou en tout cas vous n'êtes pas voisin de Regard, vous avez peu de chance de la capter là. Mais si vous êtes juste à côté, vous entendrez un espèce de fouillis sonore. Pirate, assez intéressant, qui moi m'a rappelé une chose, c'est Radio Caroline, qui était dans les années 60 une radio pirate qui émettait en anglais depuis un bateau ancré dans les eaux internationales au large du Royaume-Uni. Donc je pense qu'il y a une référence à ce Radio Caroline. Et puis, évidemment, la performance se termine, hein, ça dure le temps de la traversée.
Donc une vingtaine de minutes.
On, évidemment, c'est plein d'humour parce qu'on est sur une traverse, on est entre deux terres, on n'est pas... on est loin des eaux internationales, on est régi par un état côtier, donc l'ironie est à tous les niveaux, et vraiment cette notion de limite de territoire se solde par notre arrivée au bureau d'immigration qui se fait dans les nouveaux locaux de Regard.
Oui, il y a toute une salle. Hein,
voilà, il y a toute une salle qui est dédiée à ça, et on nous propose un passeport qui va concrétiser notre nationalité dardénienne. Je fais le geste. Donc il y a des stickers qui sont distribués à l'effigie de Dardenland. Bon, en tout cas toute une mise en scène là autour de ça. Tout ça pour introduire que Calibrage sans déviance, c'est une exposition qui va se situer aux limites, aux bornes, aux frontières des choses. Là, on a vraiment un thème qui est très générique, et ensuite des installations qui sont très différentes les unes des autres, mais qui quand même vont toujours chercher ce thème-là, avec évidemment le thème qui tourne autour des frontières entre morale, éthique, art. Donc c'est sans cesse, on va y revenir en parlant des différentes installations.
C'est intéressant par exemple parce que ça va pas dans les directions qu'on aurait pensé. Souvent on associe l'art qui peut transgresser les tabous à des images par exemple de sexualité très très fortes, ou encore de travailler avec des liquides corporels, ou etc. Et là ça va pas du tout dans cette direction là.
Ben ça va pas dans le sens de la sexualité ou de la provocation.
Mais souvent c'est ce qu'on va associer, en fait.
Totalement. Je pense que c'est un désir profond des deux commissaires, Émilie Roy et Guillaume Lafleur, qui ont été chercher justement des limites qui sont un peu plus insidieuses, des limites qui vont toucher, nous, notre quotidien. On parle de limites territoriales, on parle de limites propres à notre société, propres à notre humanité. Et j'enchaîne pour parler de Painting and Singing Black Baked Woodpecker. C'est une installation de Martin Udenbogart. Donc c'est un artiste hollandais qui travaille en Belgique, et son installation, dans le fond, passe, bon, moi je l'ai trouvé un peu inaperçue, dans le sens où elle est à l'entrée. Elle est quand même
sur une petite table,
c'est présenté comme un petit laboratoire. On a un oiseau mort qui est présenté dans une cage en verre, auquel est relié des fils liés lui-même à un voltmètre, ensuite un ordinateur. Donc on se demande ce que c'est. Il y a pas d'explication. J'avoue qu'au départ j'étais un peu déroutée par cette installation. Est-ce qu'il s'agit d'un oiseau made in China? Est-ce qu'on est sur un oiseau empaillé? Et en réalité, cet artiste-là parle de la mort. Mmh. Et il parle de la mort pas comme une séparation de la vie, mais de la mort étant partie intégrante de la vie. On a un petit oiseau qui est mort et qui continue à vivre, parce que toute sa dégradation moléculaire, tout son corps, finalement, va produire des sons, va produire des ondes, et donc c'est retranscrit par des schémas, par des graphiques sur l'écran d'ordinateur. Donc c'est vraiment intéressant.
Ça va pousser. On va entendre un peu ce que ça fait comme.
Et on l'entend vraiment. Il y a des variations sonores qui sont liées à cette dégradation. Faut savoir que cette boîte là, elle est totalement hermétique, sans quoi la dégradation serait très accélérée. Ben ouais. Donc là, elle est ralentie au maximum, et on a un corps qui continue à vivre. Donc cette limite là entre la vie, la mort, elle est hyper intéressante. Évidemment, il y a la limite de l'artiste. L'artiste, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il m'a dit, je suis moins un artiste qu'un scientifique. Là encore, la notion de limite, c'est quoi l'intervention d'un artiste? C'est quoi sa place dans l'histoire de l'art? Est-ce qu'il est de l'ordre du scientifique? Est-ce qu'il est... En tout cas, ça va soulever beaucoup de questionnements. Encore une fois, sur cette base de limite, encore une fois, sur ce calibrage, sur déviance. Donc, je me suis intéressée aussi au terme calibrage, au terme déviance. J'ai été chercher pour le fun, j'ai été chercher les définitions. On pourra en reparler après. Ensuite, notre visite, elle se dirige vers l'installation de Guillaume Lafleur, qui est une installation vidéo. Le spectateur se retrouve au centre de deux écrans, en tout cas de deux projections vidéo, l'une en face de l'autre, qui sont projetées simultanément. C'est un montage de film, Guillaume Lafleur étant associé à Antitube, à un background cinématographique assez important. Il va puiser...
On connaît d'ailleurs ici à CKRL, il anime l'émission Le 7e art.
Ah oui, ben ça je le savais pas.
Mais vous êtes précise, donc on fait un lien.
On en profite. Il va tirer des images de films d'auteur, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Gilles Carle, Samuel Beckett, etc., etc. Il y en a quand même une belle flopée. C'est des images qui sont à la fois très esthétiques et un sens très fort. Si on cherche un fil conducteur, on a du mal à s'y retrouver, mais si on se laisse porter par ces images-là, on a encore cette notion de limite, la limite des sens, la limite de la place de l'artiste. Ce qui est intéressant, c'est que Guillaume Lafleur, donc, est commissaire de l'exposition, mais il est aussi un artiste intervenant. Et là, il y a une limite entre son rôle de commissaire et son rôle d'artiste au sein même de l'exposition. Et enfin, je terminerai par l'installation de Martigues, qui s'appelle Aux Quatre Vents, donc c'est François Martigues, qui est une installation qui est assez intéressante, qui est assez intrigante aussi, avec des ballons noirs gonflés à l'hélium, retenus par un filet, auxquels sont suspendus des petits sachets. Donc on se demande s'ils sont pleins, s'ils sont vides. J'ai appris après qu'ils étaient remplis de graines anciennes. Et au sol, on a un grand bac de terre noire, et au centre de l'installation, une petite bande sonore qui passe, donc avec une entrevue d'une personne qui parle d'agriculture, du système agroalimentaire, des lobbying qui dénoncent le lobbying agro-industriel, et puis le monopole. Donc ça va encore chercher des intérêts. Bon, ça anime cette expo-là, le calibrage sous des viands, ça va nous réveiller un petit peu. Là, moi, ça m'a secoué. Je dois avouer que...
D'ailleurs, je fais une parenthèse, Fanny, les graines ont poussé. Parce qu'une fois que les ballons tombent, les petits sachets se retrouvent sur le sol, à regard, on l'arrose régulièrement, puis là, il y a plein de petites pousses,
de
ces graines anciennes-là en ce moment, donc il y a du vert dans les
Alors, graines. Ce qui est intéressant, c'est que ces graines-là, elles sont illicites. À la base, elles ont été interdites dans l'espace Schengen en Europe, et donc il y a eu ça a été une grosse histoire, là, parce que, pourquoi ces graines sont interdites pour donner la place à des graines hybrides, sachant que les gros industriels, les grosses multinationales détiennent quand même 40% du marché. Donc ça va réveiller quand même des choses. Puis on est aujourd'hui à l'ère du retour à l'écologie.
Alors, toute une série de questionnements. On pourrait continuer la réflexion davantage.
Très longue, oui.
Fanny Aymon-Lévy, merci beaucoup.
Merci à toi, Julie.
L'exposition Calibrage sous déviance qui est présentée à Regard, c'est tout juste de l'autre côté du traversé. Donc, on n'a plus de raison de dire, c'est loin, il faut monter une côte pour aller à Regard. Donc, tout juste en face du traversier, c'est présenté jusqu'au 30 octobre. On s'en va en pause audio, on écoute Retreat to Fame. Ensuite, on discute avec Gabriel Gendron sur les ondes de CKRL. 18h15, dernier quart d'heure de l'aérospatiale. On va en passer en une bonne partie avec Gabriel Gendron qui expose avec Marceau à la Galerie Zara. Reconditionner le rêve. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi?
Ça va très bien. Bon, reconditionner le rêve, est-ce que c'est toi et Marceau qui avez choisi le titre ou c'est la Galerie Zara?
C'est la Galerie Zara qui a trouvé un titre pour essayer de marier un peu nos deux réalisations qui sont très différentes.
Toi, d'ailleurs, tu travailles à partir de fragments, de souvenirs familiaux. Qu'est-ce qui t'a amené à ce type de sujet-là?
Mais en fait, c'est pas tant le souvenir familial que des photographies d'archives, donc des photographies un peu plus vieilles qui me sont tombées sous les mains puis qui m'attiraient par leur sujet. Moi, je travaille le portrait d'enfant dans le cas là, de cette exposition-là. Puis c'est ce qui m'a vraiment, c'était les constructions de l'image, c'est ce qui m'inspirait pour la suite.
C'est des images, d'ailleurs, où j'imagine tu travailles à partir de photographies, mais tu recomposes les images?
Oui,
tu
tout à fait, c'est ça. Mon sujet est complètement différent. Là. On ne peut pas forcément faire de lien avec une photographie. Là. C'est vraiment inspiré de façon large. Ouais.
C'est des scènes, bon, c'est la plupart, tu le dis toi-même, c'est des portraits d'enfants, mais on sent qu'il y a quelque chose de détourné, une gravité quand même là, dans tes tableaux.
Oui, c'est ça. Je travaille un peu l'ambiguïté, le bizarre, même le côté sombre. C'est des termes qui vont pas forcément habituellement avec l'idée de l'enfance. Puis ce qui me plaît un peu, essayer de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens mal par rapport au sujet? Ou qu'est-ce qui se déroule dans la scène?
Oui, parce qu'il y a vraiment, des fois, il y a quelque chose même d'inquiétant. Là. C'est comme un petit peu trop sérieux pour être réellement le regard
ouais,
d'enfant.
Oui, puis même les enfants. Mais ça, c'est un peu parce que la photographie, on parle de photos qui ont été prises peut-être dans les années 50. C'est dans ce temps-là, les gens prenaient une pose plus sérieuse aussi devant l'appareil. Là. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, c'est aussi à cause de ce phénomène-là que les portraits sont si... ça crée une ambiguïté parce que notre rapport à l'enfant, c'est toujours le joyeux, le beau. Tandis que là, j'ai voulu axer, faire transparaître le lait aussi dans l'enfant qui est pas forcément beaucoup vu. Là. C'est peut-être là que réside l'ambiguïté. Là.
Je passe à un autre sujet. En fait, quand on regarde tes tableaux, on peut pas s'empêcher de remarquer que tu utilises des patrons.
Oui.
Des patrons de couture que tu colles à la surface.
Oui, c'est ça. J'ai voulu... je trouvais qu'il y avait un rapport avec... quand on parle d'enfant, on est toujours un peu près de l'univers féminin aussi. Puis je trouvais que de ramener ça dans l'image, ça faisait un peu un écho à cet univers-là. Puis, tout comme les photographies qui étaient anciennes, je trouvais que le patron, c'est un matériau, un matériel qui est de moins en moins utilisé puis qui est là pour être récupéré, là, finalement.
Ça ajoute des transparences, en fait, parce que comme tu colles ça par-dessus, il y a vraiment des superpositions, des effets de transparence. C'est quelque chose de volontaire, j'imagine?
Ah oui, tout à fait. Là. C'est au fil des explorations qu'on sait mieux utiliser le matériel, si on veut. Puis c'est ça, c'est rendu là, j'étais en possession de mes moyens. Puis c'est ça, j'essayais d'exploiter la transparence puis la couleur. Puis aussi, le patron, c'est beau parce qu'il y a toutes sortes de lignes. Puis quand on commence à en tenir compte dans la construction de l'image, ça prend du sens, mais au niveau pictural, pas au niveau de ce que c'était. Là.
Ben oui, parce que tu l'utilises aussi pour délimiter des parties du visage des enfants. Donc, ça distancie, en fait, la photographie.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis, je trouvais ça bien aussi parce que, dans le fond, le patron, c'est un outil d'assemblage ou de construction à la base. Puis, cette période-là de la vie de l'être humain, c'est une construction aussi. On est en train de se construire. Je trouvais qu'il y avait un bel échange entre le sujet et le matériel que j'ai utilisé.
D'ailleurs, ça ajoute aussi, bon, tout au moins c'est mon avis, mais ça ajoute une dimension un peu plus graphique à ton travail aussi, justement, parce que tu parlais des lignes, mais des fois, il y a des motifs là, sur ces patrons-là.
Oui, c'est ça. Ouais, d'exploiter ça, c'est vrai. Puis, dans le fond, au niveau graphique, j'ai toujours voulu rester et exploiter la peinture au maximum. Mais tout en laissant une place, là, comme tu le fais mention, à ce coup d'œil plus graphique, plus crayonné.
D'ailleurs, parlant de peinture, en fait, j'ai pas pu m'empêcher aussi de remarquer ton utilisation de la couleur. Souvent, ça va être des couleurs quand même assez vives, ouais, mais qui vont contraster avec les visages des enfants qui sont habituellement plus pâles.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est que aussi dans ma recherche visuellement, la photographie, ce qui m'attire, c'est vraiment le portrait. Donc, quand je transmets ça dans l'œuvre, j'essaie de remettre le portrait, mais vraiment dans un univers de couleurs, de textures, puis pas forcément avec les éléments qui allaient dans la photographie, là, nous situer même au niveau visuellement dans le lieu, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis c'est ça. Dans le fond, ça laisse beaucoup de place à l'utilisation de la couleur.
Puis tu as des fonds d'ailleurs assez simples, hein? Peu, ouais, d'évocation non plus de l'endroit, donc des grands aplats finalement de couleurs contrastées.
Oui, pour laisser vraiment toute la place au sujet, là, c'est vraiment, c'était ça le but dans chacun des tableaux, là.
T'exposes avec Marceau, alias Marie-Soleil Couture.
Oui.
La connaissais-tu?
Oui, 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 on s'est côtoyés dans les ateliers de l'Université Laval. Elle a terminé un an après moi, mais on était là, dans mes deux dernières années, je dirais, là, on s'est côtoyés là, suffisamment. On s'est bien amusés ensemble.
Est-ce que vous avez pensé peut-être l'accrochage ensemble aussi, de manière à ce que les œuvres se répondent?
Non, malheureusement, l'accrochage, pour ma part, ça a été fait vraiment par l'équipe de Zara, parce que j'ai pas pu me déplacer. Mais Marie-Soleil, je ne sais pas si elle a dû être sur les lieux lors de son accrochage. Probablement que c'est à ce moment-là là, qu'ils ont essayé de créer un univers là, entre les deux productions.
D'ailleurs, les deux productions, bon, on l'a dit en début d'entrevue, ce sont des productions qui sont quand même assez différentes.
Ouais.
Mais toi, est-ce que tu en vois quand même des liens entre vos deux productions?
Ben, on réalisait que on traite tous les deux d'un sujet qui est quand même un peu une controverse. Marie-Soleil, elle le fait assez explicitement. Moi, je dirais que c'est un peu plus implicite. C'est peut-être à ce niveau-là. Puis aussi, notre utilisation des couleurs et tous les deux, on aime beaucoup les couleurs vives qui sont éclatantes. Puis il y a ça qui nous met en commun. Sinon, parfois, l'utilisation d'animaux ou de références là, à l'animal. Mais elle le fait vraiment plus explicitement que moi, dans ce cas-là.
Il faut dire que le travail de Marceau est peut-être un peu plus expressionniste dans sa facture aussi,
ouais,
avec des coulisses, une grande gestualité.
Ouais. Alors,
il y a quelque chose qui m'a marqué quand même, c'est que toutes les deux, vous travaillez justement la juxtaposition donc de choses qu'on peut reconnaître et de motifs, mais aussi la question de la transparence qui est quand même assez présente aussi chez Marceau.
Oui, c'est vrai, elle travaille par jus, puis elle va faire aussi du pochoir à marée au sol, puis elle va chercher ça par ces deux techniques-là, je dirais.
Ben, Gabrielle Gendron, merci beaucoup.
Ben, de rien, merci à toi.
Il nous reste jusqu'au 9 octobre pour se déplacer à la Galerie de Sarah pour aller voir Reconditionner le rêve. On s'en va en pause audio, on écoute la pièce Happy Wanderer sur les ondes de CKRL.
Thank you.
Alors, on vient d'entendre un dernier extrait de l'album « A Bridge Too Far » de People Like Us, une suggestion de Simon Roy. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez visiter le site de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, les informations seront mises en ligne ce soir ou demain, tôt en journée. Et également, vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion, lire les communiqués. Il y a toutes sortes de choses sur ce site-là. Si vous voulez aussi, l'aérospatiale est sur Facebook. Vous avez juste à chercher le nom l'aérospatiale et nous ajouter à vos pages. Ça nous fera plaisir. En terminant le calendrier, quelques événements cette semaine. C'est pas la semaine la plus chargée, mais ça s'en vient bientôt avec les expositions qui vont se terminer. Ce soir à 19h30, une conférence Édouard André et Nelly Jacquemart. Une conférence qui est présentée par Nicolas Sainte-Fard Garneau, conservateur du musée Jacquemart André, au sujet de l'exposition Caillebotte, qui sera présentée au Musée national des Beaux-Arts. Une autre conférence aussi, l'histoire de la famille Caillebotte, qui sera présentée le 8 octobre à 19h30 par Gilles Chardot, qui est président et expert du comité Caillebotte, bien entendu. Et le 6 octobre, un vernissage progressif ex-muro nous offre une nouvelle exposition dans la ville, c'est Avenue Citoyenne. Donc, le 6 octobre, dès 11h, on peut voir le travail de Georgia Volpe et l'atelier de la mezzanine au coin de la rue de la Couronne et Sévalier. À 16h, Eve Cadieux, et le Pignon Bleu, coin Carillon et Saint-Vallier-Ouest. À 18h30, Charles F. Ouellette, qui a travaillé avec l'organisme L'Exode au coin de la 3e avenue et de la 4e rue, c'est-à-dire ici, en face des locaux de CKRL. C'est déjà tout pour l'émission. Je remercie nos collaborateurs. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. On se revoit la semaine prochaine et je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL 89.1.